RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Djebari, il préside la société Opium qui fabrique des voitures à hydrogène. Nous sommes avec Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Joël Dagosséry, la coach de 8h, 11h20. On a un GG 7 et match à propos du message que le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, vous maintenant vous connaissez son nom, son visage. Le président Zelensky demande aux maires de France, il leur a envoyé un message, ils sont en congrès. Il leur demande de les aider, de l'aider à lutter contre le terrorisme, contre l'invasion russe, par exemple en envoyant du matériel de déminage, du matériel de pompiers, des sauveteurs pour les médecins. Alors, est-ce que les maires doivent dire oui et aider le président Volodymyr Zelensky? Oui pour Joël et Jean-Baptiste, non pour Willy et Olivier. Qu'en pensez-vous? 32-16 pour venir en discuter tout à l'heure à 11h20 avec les grandes gueules. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir. On vous avait proposé deux sujets de discussion, l'amnistie des gilets jaunes, qui est notamment demandée par la France insoumise, ou bien les démissions qui s'enchaînent à la RATP, notamment pour conduire les bus. On s'interroge à qui la faute, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter de conducteurs de bus? Eh bien finalement, vous voulez que l'on parle justement aujourd'hui de la RATP, de ces démissions en masse chez les conducteurs de bus. Eh bien écoutez justement deux d'entre eux qui ont raccroché les gaules.
C'est vraiment le fait de continuer à travailler la RATP dans une circulation dense, une population énervée, un management qui soutient de moins en moins ses agents, qui fait que ben je préfère aller travailler dans une autre entreprise.
Arrivé en terminus, vous n'avez pas de temps pour aller aux toilettes, boire un café, les régulateurs vous disent vous repartez. Et donc il arrivait d'avoir des journées de 7 heures où on peut compter les pauses en maximum 10 minutes sur la journée entière.
Voilà, alto cadence infernale, c'est ce que disent ces chauffeurs. Des nouvelles du président de la RATP, alors, Jean-Baptiste,
il
a répondu
Jean Castex
à ton message. Il lui dit que ça se fait pas avec les gens. Voilà. Il commence mal, hein.
Oui, parce que Jean, il faut qu'il écoute. Il répondra pas, mais peut-être qu'il nous écoute.
Le dialogue d'entrée, c'est très très mauvais.
Monsieur Castex, selon des chiffres obtenus par RMC, mais il faut savoir, le nombre de conducteurs de bus ayant démissionné a quasiment doublé depuis la crise sanitaire. Et donc on parle des conditions de travail, du salaire. Pourtant, la RATP, pendant longtemps, on disait que c'était quand même c'est plutôt bien travailler à RATP, on était une bonne place, c'était plutôt bien payé, l'emploi était garanti à vie quasiment, et donc c'était plutôt valorisant, ce n'est plus. Alors il y a des conducteurs de bus, ils disent, alors ça va intéresser, ça va même interpeller l'ancien ministre des Transports que tu es, Jean-Baptiste, parce que les conducteurs de bus, ils disent que depuis que la concurrence arrive, elle est prévue le 1er janvier pour les bus et les tramways, eh bien la RATP, pour s'adapter et pour gagner en compétitivité, eh bien, à détériorer les conditions de travail des chauffeurs. C'est ce qu'ils disent. Donc, moins de pauses, des primes supprimées, charges de travail supplémentaires, insuffisamment compensées. Alors, est-ce que finalement, la concurrence qui peut être saine et souhaitable n'est pas en train effectivement de retomber sur les chauffeurs RATP?
Et moi j'ai souvent dit, y compris ici, autant la concurrence dans le monde ferroviaire, notamment sur le TER, on a vu que ça a d'ores et déjà des effets bénéfiques, ça permet d'avoir plus de trains, etc., etc. Autant sur le réseau bus, et alors singulièrement le réseau bus intramuros, j'ai quand même un doute. Et on voit bien que dans l'avenir, on aura notamment des boîtes françaises, Transdev, Keolis, les RATP qui vont se battre. Et c'est vrai que ça
oblige. Keolis appartient
à la SNCF.
Donc ils se battent entre eux.
On va avoir des Français qui vont se battre entre eux et qui vont se battre un peu sur les prix.
Oui, c'est ça.
En général, on doit se battre pour la qualité de service. C'est pour ça que moi, sur l'ouverture à la concurrence des bus, j'ai toujours eu plus de doutes que sur le reste, honnêtement. Et là, l'agent a raison, c'est qu'en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis quelques années maintenant? Ils se réorganisent pour l'ouverture à la concurrence. Donc en gros, très concrètement, aujourd'hui, la RATP n'est pas compétitive. Et ils font en sorte de l'aide pour jouer ou avoir une chance dans l'ouverture de la concurrence. Il y a eu le Covid qui a quand même beaucoup, beaucoup déstabilisé. Il y a eu un absentéisme notamment qui s'est quand même greffé au moment du Covid et duquel ils ont vraiment du mal à s'en tirer. Et tous les sujets.
Et ça rend les plannings très difficiles.
Ça rend les plannings très difficiles à faire. Et puis il y a tout le sujet qui a été évoqué par l'agence, c'est-à-dire que circuler dans Paris, c'est de plus en plus compliqué.
La maire de Paris n'a pas facilité les choses.
On va dire ça comme ça. Quiconque pratique la rue de Rivoli verra quand même que la chose est quand même assez dingue. C'est de l'urbanisme tactique, disait-elle. Donc ça laisse dubitatif.
Les bus en sont victimes.
Et évidemment. Et donc du coup, tout ça, c'est quand même un cercle vicieux qui aujourd'hui emmène la RATP à ces difficultés-là. Alors ils ont lancé une campagne éclair de recrutement qui visiblement a fonctionné, mais le problème, il est quand même un peu systémique et à mon avis, il sera un problème de temps long pour la RATP.
et au-delà de la RATP, pour toutes les sociétés aujourd'hui.
Alors c'est vrai d'ailleurs pour les bus
qui cherchent des bus scolaires.
Ouais, les autocars, les
ramassages scolaires. Une rentrée en transport routier.
Au tiers de la capacité
c'est,
de
c'est ce qu'il souvent lié avoir. D'ailleurs aux horaires parce que ouais. C'est des horaires compliqués. Tu travailles le matin, tu travailles en fin d'après-midi et au milieu,
En général, au milieu, ils pouvaient faire un peu de déplacement des écoles ou un
qu'est-ce qu'ils font les gens dans les restaurants.
Et en fait, le Covid a un peu cassé ça.
Exactement la même chose. Alors, moi, ça me surprend.
Ouais, t'as les bras qui te tombent, toi, là.
Un petit peu quand même. Alors, il y a deux choses. J'entends ce que dit Jean-Baptiste et c'est un bon argument. Soit on dit tout est ouvert à la concurrence. Et là, je ne comprends pas la réaction de ce que j'entends, effectivement, de ces chauffeurs de bus qui disent bon, on est en train de nous contraindre pour nous rendre compétents. Mais c'est comment tous les gens dans les entreprises en France ?
Compétents, je pense qu'ils le sont.
Compétitif. C'est comment dans les entreprises tous les jours en France ? Exactement pareil. Les gens, ils sont sous pression tout le temps.
Ils viennent de la monopole publique, donc.
T'es obligé d'être pas l'habitude. Ou alors on dit c'est un service public. Et on le protège. Et on arrête d'écouter l'Europe sur ces sujets-là. Et on fait ce qu'on a à faire. Et ça s'entend aussi, les deux s'entendent. Mais où là où c'est incompréhensible pour quelqu'un comme moi, c'est si on dit on ouvre à la concurrence, la réaction c'est on s'en va parce que ça va pas, on nous demande plus. Mais c'est les petits patrons, les commerçants, les gens qu'on a entendus depuis ce matin parler, ils vivent ça tous les jours. La remise en cause permanente du patron, de son personnel, de son système, de son entreprise, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc, la RATP va connaître effectivement la même chose. Ou alors, on dit, c'est un service public, c'est à côté de tout ça. Ce qui se défend, hein. Mmh. Et dans ce cas-là, on les protège.
Mais je pense que, vraiment très rapidement, ce qu'on a appris de ces dernières années sur les ouvertures à la concurrence dans le monde ferroviaire, dans le monde des transports, c'est qu'il y a des endroits où ça marche, des endroits où ça marche pas. Londres, c'est un bon exemple. Ils ont fait tous les modèles possibles. Donc, TfL, la Transport for London, ils ont fait tous les modèles possibles, privatisés, machin. Ils sont revenus sur un truc beaucoup plus régulé et un peu plus public. Et moi, je pense que pour le coup, cette vision de l'Europe un peu monolithique, la concurrence, c'est bon tout le temps, partout et pour tout le monde. Objectivement, ça marche pas.
Et
pour le bus, j'ai un vrai doute.
Pour les services publics, honnêtement, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. Parce qu'à un moment, qu'est-ce qui s'est passé à la SNCF ? On a commencé à fermer des lignes. On a commencé à supprimer des trains. Ah oui. Il y a des endroits du Pas-de-Calais qui n'étaient plus desservis. Je connais des députés, des parlementaires, tu le sais, qui se sont battus. Parce qu'à un moment, tu rentres dans une économie d'échelle, une économie de marché.
Sur le réseau, c'est vrai. Je pense que le réseau, c'est vrai. Ce sera toujours un monopole naturel, comme sur le réseau de transport d'électricité, etc.
Mais moins de chauffeurs, mais c'est une conséquence directe. Pour les clients.
Aujourd'hui,
en Île-de-France, aujourd'hui, c'est un cauchemar de prendre le bus en pleine journée. T'attends longtemps. Tu montes dans des bus bondés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs.
Autant qu'on veut la SNCF avant qu'on soit sous pression, effectivement, de la mise en compétition entre les entreprises. Les Hauts-de-France, ça se passait plutôt bien.
Joël.
Bordel aujourd'hui qu'on vit au niveau des trains. Et c'est pas les
Le France c'est un peu particulier,
mais c'est pas totalement la SNCF qui est responsable de ça.
Joël Dagosséry.
Non, mais pour la RATP, il y a une concentration des difficultés. Les horaires, effectivement. Enfin, moi, j'ai vécu 20 ans avec un chauffeur de bus. Et les horaires, la vie de famille, il y a énormément de divorces, on n'en parle pas, mais il y a énormément de divorces, j'en suis aussi l'exemple, mais il y a énormément de divorces dans ces catégories-là. Donc les horaires et le contact avec le public, enfin on en revient encore, mais c'est de plus en plus difficile d'être au contact du public aujourd'hui, d'autant plus que là il y a encore moins de chauffeurs, donc du coup tout le monde est un petit peu chaud. Donc c'est vraiment assez difficile. Et aussi maintenant les jeunes, enfin, la perspective d'avoir un emploi à vie, enfin, c'est terminé. C'est pas un truc qui fait rêver. Ils rêvent d'autre chose. Nous, peut-être avec notre génération, moi j'ai 43 ans, l'emploi à vie, tu te disais, ouais, t'es tranquille, t'es peinard et tout.
Enfin, t'entends personne autour de toi dire, je rentre dans cette boîte pour rester à vie.
Parce que j'ai un emploi à vie. Ouais. Non, pas du tout. Absolument pas. La seule barrière qu'il y a, c'est encore la société, parce qu'en fait, ici, quand t'as pas de CDI en France, c'est encore compliqué pour avoir accès à des prêts, à des choses comme ça. Donc, c'est encore la barrière qu'il y a dans la tête de certains jeunes pour se dire, ouais, il faut le CDI, parce que sinon, j'aurais pas le prêt pour la maison, j'aurais pas le truc. Mais sinon, à part ça, l'emploi à vie, c'est terminé. Donc là, vraiment, la RATP, elle fait face à des difficultés qui sont d'ordre de changement de mentalité. Aussi et aussi de son organisation, et il faut pas mentir, toutes les réorganisations entraînent des départs. Enfin, moi je l'ai vécu dans le logement social, je travaillais pour Action Logement, ce qu'on appelait avant le 1% patronal, qui s'est énormément réorganisé depuis Sarkozy, et on était là sur la dernière vague, on était 400 à partir. Tu vois, je suis pas partie toute seule, on était 400 à partir, parce qu'en fait, tu as des gens qui se reconnaissent plus dans comment fonctionne l'entreprise, et c'est ce qui se passe à la RATP. Donc
tu es resté à vie, tu avais l'emploi à vie.
J'étais en CDI, donc c'était comme un emploi à vie, enfin le 1% patronal, ça n'avait pas sauté du jour au lendemain. Donc oui, Et la RATP, je pense qu'elle connaît une crise, mais ça va. Les entreprises vont se réorganiser pour réattirer du personnel. C'est juste que là, il y a un moment où on ne sait pas quoi faire parce qu'on fonctionne plus, on comprend plus comment fonctionne le public. Voilà.
Christopher est avec nous. Bonjour, Christopher.
Bonjour.
Justement, vous êtes conducteur à la RATP. Alors, je vous pose la question franchement. Vous avez 39 ans. Est-ce que vous dites c'est bon, je reste jusqu'à la retraite, ou est-ce que vous êtes sur le point de partir?
Alors non, il y a deux choses à savoir. Effectivement, ceux qui restent à l'heure actuelle sont proches de la retraite, donc c'est ce qui les tient, on va dire. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Voilà, comme beaucoup de mes collègues, je suis prêt à tout quitter. Et différentes choses, comme je l'ai entendu tout à l'heure, le public, de toute façon, en général, la fonction publique, c'est un gros problème en ce moment. Ouais. Et voilà, ce qui tient les gens qui restent, c'est le fait d'être en retraite prochainement, dans les 2, 3, 4, 5 ans, avec l'appel à la concurrence, ça va être très compliqué.
Mais pourquoi est-ce que vous êtes sur le point de partir, Christopher ?
Un ras-le-bol, les services à rallonge. Quand on rentre, on nous dit il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut manger à heure fixe, il faut dormir à heure fixe. On fait les 3-8, on a différents services qui sont du matin, de l'après-midi, de soirée, de nuit. On fait ça une semaine. Quand on est en roulement, c'est-à-dire quand on est affilié à une ligne de bus en particulier, on a ses horaires à l'avance. Maintenant, on est tellement à flux tendu qu'il y a les jeunes rentrants ne savent pas vraiment comment s'organiser. Quand on est jeune, on peut faire la fête, on veut sortir, on veut faire plein de choses, on ne peut plus rien faire. Même les anciens qui sont hors ligne, c'est-à-dire un jour ils sont sur une ligne, le lendemain ils sont sur une autre, le surlendemain encore sur une autre, on fait en fonction des besoins. Donc après, le confort de vie n'est plus visible du fait que le lundi on commence d'après-midi, le mardi on est de soirée, on recommence à être d'après-midi.
C'était pas comme ça avant.
Si, c'était comme ça avant. On est rentré, on savait très bien en rentrant. On est en horaire décalé. C'est un avantage, ouais. Ça peut être aussi pris comme un inconvénient. Une vie de famille avec des horaires décalés, vous savez, quand il faut.
Oui, mais parfois ça peut avoir des avantages. Il y a plein de professions avec des horaires décalés.
Bien sûr.
Après, ça dépend de la vie de chacun, en fait.
C'est-à-dire que
je le conçois, il n'y a aucun problème.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des gens qui veulent travailler en horaire décalé, Christopher,
non,
c'est
mais
ça
c'est pas... Au-delà de ça, oui, tout à fait. Et puis ce qu'il nous est demandé au niveau managérial, au niveau. C'est toujours plus avec moins. Le matériel est dans un état épouvantable. Quand on a problèmes, logiquement, on est censé remiser le bus et qu'il soit réparé. Sauf que c'est pareil, au niveau des ateliers, il n'y a quasiment plus personne. Ils ont du mal aussi à recruter à ce niveau-là. Donc on roule avec... on a quand même l'obligation d'avoir du matériel sécurisé, sécurisant. Sauf que quand on transporte des bus qui sont bondés et qu'on n'est pas trop sûr d'arriver à bon port, alors ça peut être minime, hein, mais ça peut être aussi plus grave, il y a certaines fois. Donc on nous vend la transition écologique avec des bus propres, sauf que c'est plus des bus essais que des bus de vrais bus.
Alors attendez, Christopher, parce qu'il y a Joël. Joël, permettez qu'il vous écoute attentivement.
Je vais réagir à ce que dit Christopher sur les horaires. C'est parce que c'est pas les horaires décalés qui posent problème. C'est ce qu'il décrit, c'est le hors ligne, c'est-à-dire. C'est décalé, oui, mais c'est pas fixe. C'est-à-dire, t'as des couples, tu sais tous les jours que ton mari se lève à 3 heures du matin et qu'il
va rentrer. Tu as vite.
Voilà, exactement.
Ouais.
Mais
là,
il y a pas ça. C'est 2 semaines à l'avance. T'es toujours obligé de demander. T'es sur quelle ligne? Tu finis à quelle heure ce jour-là, etc. Et donc, c'est vraiment une gestion qui est assez particulière. Et
oui, c'est-à-dire que là, tu sais pas à quelle heure ton mari rentre.
Il y a pas de projection.
Ton amant ou ta maîtresse, quoi.
Voilà. Simplement pour te remettre à ta place dans le lit.
C'est ça.
C'était au milieu, les bras en croix.
Attends, je sais plus. Est-ce que finalement, elle revient ou il revient? Mais où il en est dans ses horaires? Donc, en fait, ce qu'on demande simplement, c'est pour avoir des vies parallèles, de savoir précisément qu'elles soient. Non, effectivement, changer du jour au lendemain, ça devient compliqué. Non, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'il dit sur le matériel aussi. De la RATP qui est pas tellement en bon état. Et en plus, on manque de gens dans les garages pour réparer, quoi.
Moi, j'ai visité pas mal de dépôts. Alors, je pondère un petit peu ça. D'abord, il y a beaucoup de renouvellement de bus. Il y a plus de, je crois, 1500 bus là qui ont été annoncés en cours de renouvellement. Donc, il y a une phase de renouvellement des matériels. Dans les dépôts, c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet d'attractivité, notamment des mécaniciens. Mais ça renvoie au sujet d'attractivité globale. C'est où trouver des gens qui font ces métiers-là. Et c'est tendu, notamment en petite et en grande couronne. Donc, Je pondère un peu ça. Il y a beaucoup de fric d'argent qui ont été mis pour la RATP pour renouveler tous les matériels roulants, y compris les métros, les RER. Donc c'est probablement un petit pic là.
Merci à Christopher d'avoir été avec nous.
Dernière chose aussi là-dessus, c'est je pense qu'il faut pas non plus se focaliser sur ce qui se passe à la RATP. Aujourd'hui, il y a un turnover très fort dans les entreprises parce que c'est dans l'air du temps.
Partout.
C'est dans l'air du temps. Les gens qui disent ça me fait, allez j'en ai marre, allez je fais autre chose. Il y a quelques dizaines d'années, tu décrochais un emploi et tu l'avais pour ta vie. Quoi.
Je suis intéressé de savoir ce que font les
Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui ont envie de changer, mais moins jeunes aussi.
Oui, en même temps, dans les médias, on nous a répété depuis 10 ans que les nouvelles générations ne feraient plus un boulot à vie. Ça serait terminé, effectivement, rentrer à 25 ans une entreprise, on en sortait à 60 balais.
On a dit aussi qu'ils allaient se divorcer 4 fois.
On a dit préparez-vous à être adaptable, souple, à vous reconvertir. Donc il ne faut pas maintenant s'étonner que cette nouvelle génération décide effectivement de
se barrer. C'est jeune et moins jeune. Oui. T'as des gens qui disent banco à 50 balais, on n'aurait jamais imaginé ça.
C'est le monde qu'on leur a préparé.
Mais parce que le Covid nous a laissé la place à la réflexion. Tu te rends compte, pendant plusieurs mois, on était assis, on a eu le temps de penser à sa vie. On n'a pas le temps d'aller
payer.
Enfin, moi, je veux dire, quand j'allais en entreprise, tu te lèves à 7h, tu cours, tu vas chercher la petite, tu rentres. Enfin, t'as pas le temps. Le week-end, il faut faire les courses chez Carrefour, ça te prend 3 heures la queue. Enfin, t'as pas le temps. Et là, on nous a laissé plusieurs mois pour penser à notre vie. Donc, c'est normal qu'après ça, t'as des gens qui se disent, je veux plus vivre comme ça.
Attention, miroir aux alouettes aussi.
Merci, Christopher, d'avoir été avec nous. Dossier à suivre, donc, celui de la pénurie des chauffeurs à la RATP ou dans les transports d'une manière générale. Il est temps de parler foot. Foot avec Maroc-Croatie, 11h. Valentin Jamin, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. 20 minutes de jeu dans cette partie 0-0. Match plutôt équilibré, légère domination marocaine. Il va y avoir un très bon coup franc d'ailleurs pour le Maroc dans cette poule où il y a donc le Maroc, la Croatie, mais également la Belgique et le Canada. Une poule relevée pour l'instant et dans ce premier match 0-0 après 20 minutes de jeu.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours. Vous avez raté les grandes gueules depuis 9h ce matin. Vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Ça vous permet de récupérer les GG si vous avez eu un empêchement, si vous étiez pris professionnellement, personnellement. C'est des choses qui peuvent arriver. L'équipe Joël Dagosséry, Jean-Baptiste Djebari à ma gauche, l'équipe Willy Schran, Olivier Truchot à ma droite. C'est l'heure du GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
L'ensemble des maires de France et de Navarre se retrouvent à Paris pour leur congrès et ils ont reçu un message, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il les appelle à fournir de l'aide à son pays.
Pour survivre à cet hiver et ne pas permettre à la Russie de transformer le froid en un outil de terreur et de soumission, nous avons besoin de beaucoup de choses. Une aide qui est déjà fournie au niveau des villes et des collectivités françaises. La mise à disposition de groupes électrogènes et de systèmes de communication spécifiques est une protection nécessaire. Je vous appelle également à être très concret dans votre aide. Ensemble, nous pouvons contrer le terrorisme de l'État de Russie.
Voilà, le président Zelensky qui appelle les maires à le soutenir contre le terrorisme de nos villes et nos communautés. Il les appelle à se sentir solidaires en tant qu'élus de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors, est-ce que c'est le rôle des maires de répondre à l'appel de Volodymyr Zelensky d'aider l'Ukraine en tant qu'élus? 32-16 pour en parler avec les GG. Et la question, c'est les maires de France doivent-ils aider l'Ukraine et Volodymyr Zelensky? L'équipe oui, l'équipe non, je vous l'ai dit. Dans l'équipe non, Willy, tu nous dis pourquoi en 60 secondes. C'est parti.
Moi, je commence à être un petit peu surpris de l'attitude de Volodymyr Zelensky. Il y a un moment, faut arrêter de culpabiliser tout le monde. Je pense que la France a fait beaucoup pour ce pays. Ils sont en guerre, c'est très grave. On a compris tout ça. Donc, expliquer que les Français doivent donner, oui. Maintenant, demander aux maires. Est-ce que la question, c'est est-ce que les maires doivent-ils donner? Non. Il y a un moment, je suis désolé, on est maire de commune, c'est pas facile. La misère, on l'évoque depuis ce matin sur ce plateau. Encore plus au niveau des budgets des communes. Je trouve, je le dis, alors ça choquera peut-être des gens, ça commence à être un peu malsain, cette façon perpétuelle de venir effectivement demander à la France de l'argent, des services, des tas de choses. Je pense qu'on fait énormément, l'État fait déjà énormément, il y a beaucoup de gens qui ont fait des collectes, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de maires ont déjà fait, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on nous dit encore sur nos budgets de petites communes, même de plus grandes villes, certains le feront parce qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'il faut laisser le libre arbitre aux maires de répondre à cette demande, mais rien ne doit être obligatoire dans la façon dont c'est demandé.
On continue. Alors, dans l'équipe, oui, il faut aider. Jean-Baptiste et Joël.
Ouais.
Jean-Baptiste Djebbari.
Peut-être trois points. Je pense que d'abord, la stratégie de Volodymyr Zelensky, c'est exactement ça. Lui, il veut internationaliser le soutien, la solidarité, l'adhésion pour peser sur l'opinion publique. Il le fait avec tout le monde. Il le fait dans toutes les assemblées parlementaires du monde, en tout cas du monde occidental.
Moi, ça m'agace.
Et c'est sa stratégie. Et ce qu'il veut faire, une de ses stratégies, c'est de remporter la victoire de l'opinion pour peser dans le débat, avoir du soutien
la
et in fine avoir la victoire militaire. Après, je pense
ça peut se retourner contre lui.
Il est en train de la perdre.
C'est une stratégie. Enfin, vraiment,
il la perd, hein, Jean-Baptiste. Ça commence à agacer. Quoi.
Mais rappelle-toi quand même que le moment où il se pointe, tout le monde pense que Kiev va tomber. Il se pointe dans les rues de Kiev avec 5-6 personnes, etc. Enfin, sa stratégie, c'est aussi une stratégie de communication. Ça fait partie vraiment de ses leviers de puissance. Deuxièmement, les maires vont le faire. Les maires
peuvent, mais c'est pas une obligation.
La solidarité, l'humanité, c'est pas une obligation, mais certains vont le faire. Et troisièmement, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on commence à parler de système de communication, de Starlink, on parle quand même de matériel qui possiblement peuvent avoir des usages militaires. Et à ce moment-là, c'est à l'État de faire. C'est pas
au
maire.
Voilà. Tu nous rejoins à l'État de le faire. Tu nous rejoins. Merci Jean-Baptiste. Ouais, Jean-Baptiste. C'est terminé. Ouais. Joël est toute seule. Nous avons gagné.
Non, moi,
sur ce dernier sujet.
J'avais pas de position complètement radicale sur ça. Je trouve que vu la position que nous on a prise de se mettre aux côtés de l'Ukraine. Avec toute la communication qu'il y a eu derrière, parce que nous aussi, il y a eu une communication derrière de la part du président, etc. Et donc, je trouve que c'est assez cohérent. Si les maires le peuvent, bien sûr, le doivent, je te rejoins complètement, mais si les maires le peuvent, je vois pas pourquoi, tout d'un coup, ils diraient, ouais, non, ça suffit, Zelensky, etc. Non, Zelensky, on l'a reçu partout. Zelensky, c'est notre pote, on va dire. Donc, on continue dans la même lancée. Enfin, je vois pas en quoi, tout d'un coup, il faudrait couper.
Donc, faudrait une mobilisation.
Bah, contre, Joël, mais
non,
on peut quand même prioriser
une mobilisation.
Oui, parce que la position de la France,
la misère et la souffrance.
C'est laquelle, la position officielle de la France? C'est de se tenir aux côtés de l'Ukraine, on est bien d'accord. On a accueilli des réfugiés dans nos villes,
justement,
etc.
Justement, on n'arrête pas.
Je rebondis sur
priorisons
ça.
Priorisons un peu la misère quand même. On en a quand même à nos portes tous les jours.
Oui,
on fait beaucoup pour l'extérieur.
Y a des
on
file
du fric à tout le monde sur la planète. Il y a un moment, il faut peut-être en garder un petit peu pour gérer les problèmes qui sont les nôtres tous les jours.
Qu'il y ait des initiatives individuelles, c'est très bien. Que des gens s'engagent pour l'Ukraine, parfait. Il y a des mairies qui ont décidé d'accueillir des réfugiés ukrainiens.
Tant mieux.
Très bien. Mais là, ce qui est un peu agaçant, c'est effectivement ce coup de pression, cette façon de culpabiliser les maires. Moi, je veux bien, mais les maires qui au même moment sont en train de quasiment tous augmenter la taxe foncière parce qu'ils n'ont plus d'argent. Les maires pleurent en disant ah, vous comprenez, on nous a supprimé la taxe d'habitation, l'État ne nous donne pas l'argent. Alors il y a d'ailleurs une polémique, on ne sait pas si oui ou non l'État a vraiment compensé la taxe d'habitation. Bon, enfin bref, la taxe foncière augmente partout parce que vous comprenez, les maires ils doivent financer plein de choses. Et puis là tout d'un coup il faudra en plus aider l'Ukraine. Enfin, il y a un moment donné on peut pas tenir plein de discours en même temps. Si les maires n'ont plus d'argent, il faut prioriser. Et la priorité ce n'est pas d'aider l'Ukraine. La priorité du maire, c'est d'aider ses habitants.
Non, mais là, on parle de solidarité et la solidarité ne fonctionne pas exactement comme ça. Tu as plein de gens, je prends des petites solidarités, tu as plein de gens qui sont à découvert le mois et qui vont quand même dans des associations donner un passe-passe.
Mais ça, c'est individuel, ça.
Oui,
c'est très bien.
Mais c'est pour te dire que la solidarité
ne
fonctionne
pas. C'est pas une injonction venue d'un président.
Mais il faut pas.
T'imagines, c'est quand même un président, c'est une ingérence. Imaginez,
vous, les Français, vous allez nous donner.
C'est un président étranger qui s'adresse au maire d'un pays étranger, il leur dit, écoutez, aidez-nous. Enfin,
c'est passe même pas par le président qui est son interlocuteur légitime, le maire qui vient et s'adresse directement au maire.
Il vient pas de piquer ton argent dans ton sens, il te demande.
Il vient culpabiliser tout le monde, et les maires, ils sont pas toujours très courageux, vont se dire,
moi,
oh là là, si j'aide pas, on va me montrer du doigt, les médias vont tomber dessus en disant, ah ben c'est pas bien, monsieur le maire, vous avez pas aidé. Tu sais très bien comment ça se passe. Il y aura une espèce de pression médiatique d'une certaine presse. Moi, je pense que les maires.
C'est malsain et malhonnête.
Les maires doivent dire, c'est pas à moi de le faire.
Zelensky est dans une guerre qui va durer. Pour durer, il a besoin du soutien des pays occidentaux. Il a besoin du soutien des opinions publiques.
Pas trop loin.
Et donc, c'est sa stratégie. Le mec, il est en guerre. Enfin, honnêtement, je pense qu'il faut aussi c'est une stratégie. Le mec, il est en guerre.
On sait tous que l'Ukraine, elle serait déjà rayée de la carte si l'Occident n'avait pas été là. Combien de temps aurait pu l'armée ukrainienne? Et comment ça se fait qu'ils sont en train, effectivement, de reprogresser à l'Est? Tout ça, c'est déjà l'Occident. C'est déjà des pays comme la France, c'est les États-Unis, c'est tout le monde, avec des moyens, avec de l'argent. Et on vient encore nous expliquer, donnez-nous encore de l'argent, encore des moyens.
Je me méfie quand même de...
Au moment, il faut que ça s'arrête quand même.
Moi, je préfère qu'on soit clair sur le sujet.
Mais on est clair. C'est lui qui commence à être trop.
À bien des égards, ça peut ressembler à ce qu'a fait l'Allemagne nazie en Pologne à l'époque. On a été un pays, nous, occupé à l'époque de nos parents, nos grands-parents.
Bien sûr.
Quand tu résistes, enfin, tu vois, c'est pas géométrie variable. Moi, je pense qu'il y a un mec dans ce... Tout est contestable, mais je pense qu'il y a un mec qui a raison. Au nom de son peuple, c'est Zelensky, de résister à l'agression russe.
Bien sûr qu'il a raison.
Et on le soutient. Et on soutient.
La France se soutient.
Et donc, bon, il y a des maires qui vont le faire. Moi, j'ai été en Ukraine à la frontière ukraino-polonaise. Il y a des associations là-bas. Il y a des gens, des élus qui y sont, qui organisent des bus.
Mais très bien.
Mais on a tous donné, bien. À titre donc, personnel.
En fait, il fait un peu de com. Attention. Il fait de la com. Je pense que la solidarité, elle va s'organiser quand même. Et qu'après, voilà, il a fait son.
Sincèrement, est-ce qu'il devait intervenir au Congrès des maires des France? Moi, je me pose la question.
Dans ce cas-là, non, sincèrement. Mais c'est eux qui veulent intervenir à l'Assemblée
nationale.
Mais
c'est ce qu'il a fait, hein.
Moi, ça me gêne. Mais c'est pareil pour Greta Thunberg qui se pointe à l'Assemblée nationale et qui raconte sa vie.
Je suis assez d'accord.
Il y a un moment, faut qu'on arrête d'accepter de nous prendre, voilà, de nous faire la leçon chez nous dans un contexte des communes.
Les gens
ne
forcent pas l'entrée de l'Assemblée nationale ou du Congrès des maires. C'est bien la France ou ses représentants en qualité de maire qui l'invitent. Donc, à ce moment-là, quand tu fais ça, c'est normal, que c'est légitime que le président se sente en droit de demander. Je veux dire, c'est une demande de demander.
Mais tu vois, je vois quand même trop de demandes, tu la demandes. Attention à pas aller trop loin.
Je suis d'accord.
Ce que
qu'il faut faire attention.
C'est ce que je commence à entendre partout.
Ça
commence
chose
à peser sur les gens. Parce qu'on revient à nos problèmes, on se reconcentre sur notre propre détresse.
On subit aussi les conséquences de cette guerre.
Cette guerre de l'Ukraine, c'est difficile.
On n'a pas demandé.
On a beaucoup donné, l'État a fait des efforts extraordinaires, les collectivités territoriales. Et le simple français a donné énormément.
Et ça va continuer.
On vient encore nous dire, mais maintenant c'est au maire, et demain il viendra dans une autre émission nous dire ceci, c'est là. Il est en train, je pense, de faire une erreur de communication parce qu'il va trop loin. Donc, alors, les maires ne doivent pas subir une pression pour donner.
Les maires de France doivent-ils aider Volodymyr Zelensky, qui les appelle à envoyer de la logistique, du matériel et tout? Vous saurez ça dans un instant, on en est dans notre consultation. Est-ce que c'est l'équipe oui qui l'emporte ou est-ce que c'est l'équipe non? Mais d'abord, un petit détour par la Coupe du Monde. Avec Maroc-Croatie, Valentin Jamin, bonjour, enfin rebonjour Valentin.
Rebonjour, il reste un petit peu moins de 10 minutes en première période et pas de but pour le moment, 0-0 entre Marocains et Croates dans un match plutôt fermé, aucune frappe cadrée pour le moment à Doha dans cette première rencontre de la journée. Il reste 9 minutes en première mi-temps, 0-0.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, c'est la dernière partie des GG avec le GG 7 et match. Les maires doivent-ils aider Volodymyr Zelensky? Alors, si le maire prend la décision de s'engager auprès de Volodymyr Zelensky, il engage aussi peut-être ses administrés.
Bien évidemment.
Qui sont peut-être pas d'accord. Ou alors il fait une délibération de son conseil municipal. Mais justement, oui ou non? On va regarder où on en est là dans la consultation. On a une équipe ou une équipe non? Non à 88%.
Eh ben voilà.
Bande de radins.
Non.
Non, les gens sont lui.
Collabo avec les Russes.
C'est pas vrai. Les Français sont généreux, mais ils n'aiment pas avoir le coup de pression et ce coup de pression.
Mais c'est tous des collabos avec Vladimir Poutine. Tu parles, Martine. Bonjour. Des poutinistes. Bonjour Martine.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Alors, les maires doivent-ils aider Volodymyr Zelensky, oui ou non?
Nous ne sommes pas des radins, comme je viens de l'entendre à l'antenne.
Merci Martine.
Bravo Martine, les
alors,
autres.
Donc, êtes collabo alors?
Je ne comprends pas ce que M. Zelensky vient faire dans le débat avec les maires.
Voilà.
Donc, déjà,
non
je ne sais pas comment il a fait pour s'insérer dans cette réunion. Donc, ça, c'est un truc qui m'échappe. Et puis, vraiment, aujourd'hui, les maires ont des soucis déjà pour essayer de faire plaisir à nous qui sommes des administrés. Mm-hmm. Donc, M. Zelensky passe sa vie à culpabiliser les uns et les autres. Donc, les maires, et même les autres pays, à chaque fois qu'un pays a essayé de faire quelque chose, il n'en avait jamais assez. Donc,
jamais.
Vous voyez, c'est l'escalade, et petit à petit, je crois qu'il ne sera jamais d'accord. Puis, il ne faut pas oublier non plus, et j'en finirai là-dessus, c'est que la guerre, c'est quand même entre M. Zelensky et M. Poutine, enfin la Russie. On veut bien l'aider, soit on fait ce que l'on peut, mais c'est pas nous qui sommes en guerre contre la Russie. On est bien d'accord.
On n'est pas responsable.
Raisonnement comme ça, ouais. On parlait peut-être encore allemand, les amis. Donc je me méfie de ce genre de.
Oui, non. Tout à fait.
Je me rappelle quand même qu'on était un pays occupé et qu'on a tenu parce que des gens, notamment en face de chez nous, outre-Manche, les Anglais ont tenu pendant.
Non, mais nous, on pense qu'ils
Et qu'on a des
types guerre,
comme Charles de Gaulle qui se sont barrés pour reconstruire un peu une armée française à l'époque dans.
Tu fais exactement du Zelensky, là, tu nous culpabilises.
Non, j'ai jamais dit qu'il n'avait pas été l'Ukraine. On rappelle l'histoire.
Volodymyr sort de ce corps.
Je pense que Zelensky sera traité en héros par l'histoire et qu'il faut mieux d'écouter.
Exactement, Martine, tu aurais raison. On a déjà beaucoup.
On a subi les conséquences de cette guerre déjà.
Mais là, sur ce sujet avec les maires, je crois qu'il n'a pas sa place, tout
alors,
simplement.
Justement, moi, je voudrais savoir, pour pousser votre raisonnement, Martine, vous habitez dans le Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses, hein, c'est ça?
Oui.
Si, par exemple, votre maire, votre édile, s'engageait auprès de Volodymyr Zelensky en disant « Dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous le fournis, etc. Vous, » vous le lui reprocheriez?
Je lui reprocherai, puis je lui reprocherai surtout peut-être de ne pas nous avoir posé la question avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, si demain, nous, on a coupure d'électricité ou autre, ou qu'on ne veut pas nous chauffer, et c'est le cas de certains endroits, dans les salles de sport, dans les gymnases, etc., dans les écoles, et à côté de ça, faire des dons à d'autres. Donc oui, je ne serais pas d'accord avec lui. Oui, je pourrais le lui reprocher, tout à fait.
Ou alors il fait voter le conseil municipal.
Ou alors il demande l'avis, voilà, le conseil municipal. Pourquoi pas faire un référendum en mode rapide? C'est facile à faire. Je veux dire, aujourd'hui, on a les moyens de communication.
Très bonne idée.
Donc, pourquoi pas nous demander notre avis avant.
Mais et du coup, pour le fait que la France se soit engagée aux côtés de l'Ukraine, ça, vous le reprochez au président de la République ou pas?
Pour autant, non. Parce qu'on ne peut pas, effectivement... ne pas aider ce genre de pays qui effectivement est en difficulté. Donc je reproche pas non plus à la France de l'aider. On peut aider dans la mesure de nos moyens, mais il faut que ça ait des limites.
C'est
la
différence.
Ça va nous échapper.
C'est la différence entre le national et le local.
Non, mais je crois que pour le coup la position de Martine, moi je la comprends.
Ah bah, rejoins-nous alors.
Et... Viens, change de côté.
Viens, Jean-Baptiste.
Viens,
Jean-Baptiste. Viens.
Je prends.
Sirène.
Et les sirènes
et
mon père. C'est pas des sirènes, c'est que je les ai dans mon imaginaire d'habitude, mais pourquoi pas. Admettons. Non, je vous dis qu'on a su aussi résister à Zelensky quand il va un peu trop loin. Quand on a le missile qui s'écrase du mauvais côté de la frontière polonaise, il est allé très loin dans la rhétorique.
Très vite, très loin.
Et il s'est trompé.
Et les pays de l'OTAN, la France, au premier titre, a dit, attendez, on va prendre le temps de regarder ce qui s'est passé. Et on n'est pas du tout rentré dans l'escalade de la rhétorique de Zelensky. Donc, on écoute Zelensky, encore une fois, c'est l'agressé. Je crois qu'il défend plutôt son pays courageusement. Mais, et on faut le lucide, effectivement.
Sûr, pour l'affaire du missile, Jean-Baptiste, c'est quand même inquiétant.
Ou du missile.
On voit qu'il veut emmener d'autres pays dans le conflit. Dans la guerre. Pas dans le fait d'aider l'Ukraine. Et tout de suite hurler, vous avez vu, je vous l'avais dit, la Pologne est attaquée, ça y est, elle est bombardée. Franchement, quand il fait ça, mec me fout la trouille.
On a collectivement résisté.
Ah, carrément.
Les pays Zelensky, quand il fait ça, on voit qu'il veut emmener les autres pays dans la guerre.
Les Américains, les premiers qu'on accuse souvent d'être un peu belliqueux, etc., ont été les premiers à dire, attendez, alors, on va regarder. Ça veut dire qu'ils salués par la Russie.
D'abord, c'est que la crédibilité aujourd'hui de Zelensky vis-à-vis des alliés qui sont là pour d'autres raisons, on a bien compris.
Je pense que ça agace pas mal les alliés.
C'est remis en cause, probable. Ça agace tout le monde, et je le dis, attention. Quand le mec agit de cette façon-là pour toujours, puis c'est pas la première fois, entraîner les autres pays et particulièrement les Européens dans la guerre, ce mec-là, allez, disons-le, ça commence à déraper. Il commence à déraper.
Nous sommes. Merci à Martine d'avoir été avec nous.
Je suis d'accord avec Willy pour finir.
Parce merci Martine.
Il y a cette info qu'il nous a donnée qui n'était pas bonne, il a réagi un peu vite. Trop de communication tue la communication.
Ouais, exactement.
Donc aujourd'hui, il faut
j'aurais aimé dire c'est plus de la propagande
raconte.
Que de la communication.
Il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord. On ne sait même pas si c'est la vérité. Donc voilà, c'est tout. Je voulais finir là-dessus.
Mais je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous, Martine. Passez une
merci
bonne journée. Et puis à bientôt sur RMC. On va écouter Julien. Julien nous appelle de l'Hérault, de Montpellier. Ouais. Bonjour Julien.
Bonjour
Julien.
Alors, est-ce que les maires doivent s'engager et soutenir Volodymyr Zelensky?
Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Jean-Baptiste d'avoir rappelé certaines vérités sur De Gaulle. Voilà. Après, certaines vérités sur le général De Gaulle.
Ah, De Gaulle, pardon.
Mais quel rapport avec ça?
Non, mais voilà, parce que...
Mais on aime tous De Gaulle.
Pays, et puis nous, on a eu De Gaulle qui s'est barré à l'étranger. Voilà, juste ça. Après, est-ce que les maires de France doivent s'y aider? Ils font ce qu'ils veulent, les maires de France. S'ils veulent aider, ils aident. S'ils n'aident pas. Pour moi, là, l'Ukraine occupée d'aujourd'hui, c'est la France occupée d'hier. Moi, j'ai grandi avec l'histoire de mes grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Et pour moi, il n'y a pas de grande différence.
Donc, on est dans le poids Godwin, on ramène tout à la Seconde Guerre mondiale. Le conflit n'a rien à voir avec ce que la France a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est qu'effectivement nous étions aussi envahis par un pays comme la Russie, l'Ukraine l'est par la Russie. Mais sincèrement, il faut faire attention à ces comparaisons historiques. Et encore une fois, la France aide l'Ukraine. La France aide l'Ukraine beaucoup. À hauteur de ses moyens. C'est sûr que ce sont surtout les États-Unis qui arment les Ukrainiens et qui permettent d'ailleurs à l'armée ukrainienne de résister, plus que de résister, même maintenant d'être à l'offensive face à l'armée russe. On subit aussi quand même, on ne le dit pas suffisamment, le plus en Europe, les conséquences de cette guerre. Économiquement, on est un peu les grands perdants. Hein. Moins que les Américains, parce que les Américains nous vendent en ce moment du gaz de schiste et du pétrole. Moins que l'Iran, le Qatar, etc. qui vont faire de même. Nous, on est en train de subir de plein fouet les conséquences, l'Europe, de cette guerre. Donc,
Julien,
on paye le prix. Hein,
donc Julien, vous êtes pour que les maires répondent à l'appel de Zelensky.
Oui, j'y réponds, mais ceux qui veulent peuvent le faire, et puis après qu'on ceux qui veulent pas, ils font voilà. Que les maires fassent comme ils veulent, c'est comme les crèches, c'est comme plein de choses.
Ah, mais là, ah, mais d'accord,
mais donc l'initiative individuelle.
Donc le terme doivent le faire, c'est pas bon.
Voilà, parce que celui qui fera pas sera stigmatisé, celui qui le fera sera stigmatisé.
Vous êtes d'accord avec moi.
Mais Julien, donc si la ville de Montpellier voulait s'engager, vous diriez pas besoin de vote du conseil municipal, il y a un agresseur, il y a un agressé, il faut y aller.
Voilà, s'il veut le faire, il a été élu pour ça, c'est un maire, qu'on ait voté pour lui ou pas, il a été élu.
Et puis donc, il assumera les élections.
Ben, il le fait, c'est un point barre.
Moi je trouve que ce serait bien qu'il fasse une petite consultation. Je comprends pas pourquoi on le fait en Suisse, il y a un système de votation, le maire peut très bien faire une petite consultation auprès de ses administrés. Est-ce que vous voulez qu'on aide l'Ukraine, à quelle hauteur,
du budget de la commune.
Non, mais les Français n'ont pas voté pour ça. Les Français,
à l'échelle municipale, Julien.
À l'échelle municipale.
Le problème en France, c'est que ça va vite devenir chronique. C'est-à-dire, quand tu vas changer la couleur de la peinture des chiottes de la mairie, tu vas devoir finir à interroger effectivement les habitants. Non, mais c'est comme ça que ça va finir.
Non, parce que les élections municipales ont eu lieu avant la guerre en Ukraine. Donc, c'était pas au programme du maire.
Non, mais tu fais voter ton conseil municipal. T'es pas obligé, Julien. On peut faire
le conseil, oui.
Une petite votation.
Un thème de la votation suisse.
Moi, je trouve formidable le système suisse, moi.
D'accord. Bon.
Vous seriez par exemple pour qu'à Montpellier on fasse une consultation locale uniquement de la population?
Non, moi franchement, vu le taux d'abstention à chaque élection, ça sert à rien. Le maire, il a été élu.
Mais là, les gens voteraient, je pense.
Voilà, c'est tout. Maintenant, mais quelqu'un politique qui a été élu, tu vois pas le mandat d'après, tu fais ce... voilà, et tu prends des décisions, que ça plaise ou que ça plaise pas.
Merci. Moi, je vote pour Julien.
Merci Julien d'avoir été avec nous. Merci Julien. À bientôt sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. D'ailleurs. La doctrine de la France, qui est la doctrine européenne, à aucun moment, si tu veux, on a demandé aussi aux Français ce qu'ils en pensaient, s'ils étaient jusqu'où. Après, si on s'installe dans un conflit long, il y a un moment, il faudra savoir quand même ce que l'on fait. Est-ce qu'on continue de soutenir Zelensky, mais tu sais pas jusqu'à quand, de quelle manière? Est-ce que si c'est un conflit long, on doit l'hiver prochain se retrouver de nouveau, tu vois, dans la panade, à dire risque de coupure ou pas? Enfin, tu vois, l'imbrication, à un moment, là, il faudra peut-être lui mettre un terme. Quand même.
C'est la responsabilité éminente du chef de l'État. Lui a les informations. Je rappelle quand même que quand on apprend que les Russes envahissent l'Ukraine, tout le monde dit dans 96 heures ou 48 heures, Kiev tombe. C'est ça qui se dit à ce moment-là. Donc, d'avoir une réaction rapide et de venir d'ailleurs l'expliquer devant sa population, c'est ça la responsabilité politique. Sinon, on fait autre chose.
Ouais. C'est vrai,
Macron a eu raison de ce point de vue-là.
A raison là-dessus.
Oui, mais il engage aussi les Français dans.
Il est élu pour ça. Lui, il doit trancher. De toute façon, c'est son boulot.
Je pense qu'en plus, regarde toutes les voix qu'on a entendues de dire, mais attendez, jusqu'où, jusqu'à quand?
Ouais.
Mais Marine Le Pen, par exemple. Enfin, on verra. Je pense que l'histoire jugera. Est-ce que Zelensky est une fraude ou un héros? Moi, je pense que l'histoire le traitera pour héros.
Il est un peu des deux.
Mais Marine Le Pen, ce qu'elle dit quand on regarde, je trouve ça catastrophique du point de vue de la responsabilité politique. Elle aurait abandonné l'Ukraine, ce qui aurait été une responsabilité éminente de la France dans l'Europe et probablement de l'Europe. Donc ces gens-là, pour moi, ne sont pas au niveau de la présidence de la République. Et l'histoire de l'Ukraine, s'agissant de Marine Le Pen, le démontre.
On voit le résultat de la consultation après vos votes. Alors, est-ce que les maires... Les maires de France doivent-ils aider Zelensky? C'est un non sans appel à 89%.
On n'a pas le record, là, avec 89%.
89, c'est pas mal, c'est un beau match.
Ça commence à sentir une belle fessée.
96, je crois, une fois.
À 96.
Allez, on va, avant de conclure, un petit tour par la Coupe du Monde, Maroc-Croatie, Valentin Gérin. C'est la mi-temps sur le score de 0-0 entre le Maroc et la Croatie. Les Croates ont poussé en fin de première période avec notamment
notamment une belle frappe à bout portant de Zlatko Dalic arrêté par le gardien marocain Yacine Bounou. Il permet donc à son équipe de rester dans le match à la pause 0-0 entre ces deux nations.
Le match Maroc-Croatie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.